Bonjour, bienvenue à Aime l'été, ici Chantal Lavoie, mardi 6 août. On a devant nous une belle heure à passer ensemble, des invités qui ne manquent pas d'idées pour mieux intégrer les personnes issues de l'immigration, que ce soit par la langue, mais aussi par l'apprentissage du vélo. Cela dit, le vélo qui est un enjeu important pour les personnes adultes qui ne savent pas en faire. Aussi, un festival dédié à la rencontre des cultures orientales et occidentales et des balados qui parlent de tout concernant notre sexualité. Jusqu'à 13h, voici Aime l'été. Vélo Caravane, cet organisme qui apprend aux adultes à faire du vélo, un projet qui transforme des vies. Également, nous allons accueillir en studio deux professionnels en sexologie, Rosie Bertrand et André Bouffard, qui nous présentent des balados fort bien articulés et décoincés sur la sexualité. Il sera question du Festival Orientalis, qui en est à sa 14e édition, mais on va commencer avec Geneviève Breton, qui vient parler de ses cours de français québécois pour faciliter l'intégration des nouveaux immigrants, mais qui en même temps a plein de choses à dire sur notre belle langue québécoise et ses particularités. Pour en savoir davantage, joignez-vous à nous à Aime l'été. Oui, alors j'ai des petits problèmes avec mes écouteurs. On dirait qu'il y a un petit délai. Alors, je suis bel et bien en onde.
T'es là?
D'accord? Oui, je suis là. Je suis là. Alors, c'était très intéressant. Avant l'émission, on parlait d'une expression. Tu m'apprenais des choses.
Oui. En fait, c'est parce que...
On parlait des odeurs.
On parlait des odeurs, effectivement. Puis, je t'ai parlé d'une madeleine de Proust.
Ouais.
Et là, tu me disais, qu'est-ce que c'est? Alors, une madeleine de Proust, c'est un élément qui déclenche la remontée d'un souvenir d'enfance heureux. Alors, sans qu'on cherche à s'en rappeler. Je te donne un exemple. Quand je sens de la sauce à spaghetti, pour moi, ça me rappelle mes dimanches, quand j'étais jeune, où maman, papa faisaient de la sauce à spaghetti.
Évidemment.
Alors, tu vois, j'en parle, puis je suis émue. Oh, moi, je suis émue.
C'est fou. Oui, je sais.
Alors, mais c'est ça. Donc, on appelle ça...
On t'engagerait comme pleureuse dans un autre pays ou à une autre époque.
Effectivement, on appelle ça une madeleine de Proust.
Ah, oh, c'est intéressant. Mais ça, je connaissais pas l'expression.
Et tu te souviens, donc, pourquoi Proust?
Oui.
Ben, donc, c'est le premier roman.
Oui, c'est un des personnages, en fait, qui fait référence un personnage dans l'œuvre de Proust.
Exactement, une œuvre de 1913.
D'accord. Alors, ça, c'est intéressant. Là, on va parler, évidemment, on commence l'émission avec Geneviève Breton, qui, je crois, est à l'autre bout du fil déjà, et puis elle nous entend. Bonjour, Geneviève.
Bonjour.
Alors, Geneviève, toi, tu es ma prof de français. En fait, façon de parler, c'est ta chaîne YouTube. Alors, ça s'intitule ainsi, c'est-à-dire que tu donnes, en fait, à la fois des capsules, mais tu donnes des cours à toute fin pratique de français, mais français québécois.
Oui, tout à fait. Ça a commencé par la chaîne YouTube, mais maintenant, effectivement, il y a des formations en ligne qui sont disponibles. J'ai un cours sur la compréhension de l'oral informel, puis j'ai un cours sur la prononciation.
Alors, toi, tu as vraiment tout un cheminement. Bon, premièrement, tu as étudié en musique. Alors, oui, tu as étudié à l'université, je pense, en musique, hein?
Oui, une maîtrise en saxophone jazz.
Hey, wow! C'est quelque chose. Oui. Alors là, après ça, tu décides d'aller en traduction, de faire de la traduction. Et donc, tu vas travailler comme traductrice de l'anglais au français.
Exactement. J'ai fait le bac en traduction. C'est un retour aux études parce que je voulais quelque chose d'un peu plus stable que la musique. En fait, en tant que musicienne, j'ai travaillé surtout en enseignement. Fait que ça m'a permis de me ramasser une belle expérience en pédagogie. J'ai enseigné des tout petits, là, de l'éveil musical, maman, bébé, jusqu'à l'université. Donc, vraiment, tous les niveaux, dans tous les contextes possibles et inimaginables.
C'est ça. Après ça, ben là, tu décides finalement, c'est là que tu vas apprendre beaucoup aussi ton français parce que comme traductrice, tu pars de l'anglais au français et ça va t'amener à une connaissance très pointue de notre belle langue française.
Oui, on avait des cours de grammaire très, très poussés. Vous savez tous autant que moi que c'est difficile d'écrire en français. Il y a tellement de règles et tout. Puis je pense que, en tout cas, moi personnellement, j'ai jamais eu de difficulté en français. C'est une matière qui allait bien pour moi à l'école, mais il a quand même fallu que je fasse un bac en traduction puis que j'ai des cours de grammaire poussés pour me sentir assez outillée, pour sentir que je maîtrisais finalement ma langue maternelle.
Oui, après... Ouais.
C'est, il me semble que c'est très parlant. Si nous, en tant que francophones natifs, on se sent pas nécessairement outillés ou on sent qu'on maîtrise même pas notre langue maternelle, imaginons les personnes qui l'apprennent.
C'est quelque chose. D'ailleurs,
c'est quelque chose.
Quand je suis allée évidemment sur ta chaîne YouTube et puis je voyais tous les vidéos que tu avais offert aux gens et comme ça avec mm-hmm. les sujets aussi dont tu parles, les erreurs que l'on fait, bien sûr. Mais moi-même, j'en apprenais.
Oui, il y a de plus en plus de Québécois qui suivent ma chaîne, qui s'intéressent à mon contenu parce que, moi, j'enseigne la langue informelle. C'est ce qui m'intéresse. Puis, en fait, quand j'ai fait mon bac en traduction, j'ai fait plusieurs cours de linguistique où j'ai vraiment appris le fonctionnement des langues, puis où on se questionne un peu, tu sais, est-ce que la langue, c'est l'orthographe? L'orthographe français est tellement compliqué, est tellement loin de la façon dont on prononce. En tout cas, fait que c'est tout un questionnement, puis c'est des leçons. La linguistique, c'est la science qui étudie les langues. Puis l'approche, c'est vraiment d'observer, de se positionner en tant qu'observateur plutôt que juge. Ça, c'est du bon français, ça, c'est du mauvais français. Mm-hmm. Donc, le linguiste, je suis pas linguiste, j'ai pas la maîtrise en linguistique, là, mais c'est vraiment une approche c'est l'approche qui sous-tend mon travail, en fait. Puis donc, je me positionne vraiment comme observatrice. Par exemple, je sais pas moi, une chose qu'on dit, il y en a qui disent, t'sais, ma, au lieu de ma t'es mettre sur la table, au lieu
ouais.
de
je vais te c'est ça. Il y a plein de choses, c'est fou comment on se rend compte. Oui, on n'y pense pas, là, mais il y a plein d'expressions, de raccourcis, en fait, que l'on utilise en français et qui font à la fois notre richesse jusqu'à un certain point. Parce que tu dis, la rectitude, la rectitude, là, au niveau du bon français et tout, mm-hmm. tout est relatif parce que finalement, dans chaque langue, on a nos particularités. Et puis, la langue québécoise comme telle, le français québécois, il y a toute une histoire derrière.
Mais tout à fait. On parle de la façon dont on parle parce que ça vient des colons, puis parce que ça a évolué ici d'une façon différente que l'évolution de la France. Ils ont rejeté la monarchie. Nous, on a gardé plusieurs traits qui appartenaient à la monarchie dans l'époque, mais eux, ils ont rejeté tout ça. Puis donc, il y a des raisons qui expliquent tout ça. Puis un des concepts aussi très importants dans mon enseignement, c'est le concept de registre de langue. Mm-hmm. Je parle pas de la même façon quand je suis dans un souper bien arrosé avec mes amis que si je vais pour une entrevue pour un emploi, on est bien d'accord. Il y a la linguiste Anne-Marie Beaudoin-Bégin, l'insolente linguiste, mm-hmm. qui compare ça à un code vestimentaire. Donc, si je regarde un film sur mon divan, je peux bien être en pyjama avec mes pantalons de jogging. Il n'y a pas
exact,
de problème.
Oui.
Si je vais dans un gala, c'est plus une question d'attente sociale, en fait. Puis le registre de langue, c'est beaucoup ça. Quand je m'exprime avec vous à la radio, je parle pas de la même façon que si je prends une bière avec mes chums.
Mais
c'est
non,
normal.
C'est sûr. Et puis donc, pour les nouveaux arrivants, pas évident d'apprendre le français. C'est toute cette démarche de francisation qui est compliquée parce que quand on arrive dans notre français québécois, il y a plein de choses. Par exemple, tu veux-tu? Le fameux tu, mais ça, on le dit régulièrement, nous, les Québécois, mais il y a plein de choses aussi à savoir que tu donnes plein d'exemples de choses comme ça qui sont compliquées à comprendre pour des nouveaux arrivants parce que dans leur langue, les choses ne se disent pas nécessairement de la même façon. Évidemment, comme j'ai plein d'exemples dans ma tête, mais évidemment, ce serait bien long de tout donner les exemples que tu donnes. Mais il y a des. Sur ta chaîne YouTube, là, sur tes vidéos, il y en a plein d'exemples comme ça, des choses qu'il faut mettre dans leur contexte.
Oui, tout à fait. Mais ça, c'est vrai dans toutes les langues. Moi, j'ai appris, j'ai été souvent dans la chaise de l'apprenante. Puis ce qu'on apprend dans les livres, c'est rarement ce qu'on va entendre sur la rue.
C'est ça.
Donc, encore une fois, c'est une question de registre de langue. Mais à mon sens, c'est encore plus vrai en français québécois. On dirait que la distance est plus grande entre le registre formel, par exemple, mettons, j'écoute un bulletin de nouvelles, puis ce que je vais entendre dans la rue, à l'arrêt d'autobus, au dépanneur, c'est encore plus différent. Donc, mon but, c'était, parce que ça, c'est une des questions que je recevais quand j'ai enseigné en francisation dans la classe de francisation. Puis les élèves, les étudiants nous disaient ça. Mais on vous comprend dans la classe parce qu'on prenait notre bel accent de prof. Mais j'arrive dans la vraie vie puis je comprends pas ce que les gens me disent. Donc, c'est vraiment...
C'est sûr. Vous dites pas à votre étudiant « en way ».
Non, exactement.
En way.
On évite les structures qui s'éloignent.
T'es pêche, en way.
Mais c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est vrai dans toutes les langues, mais oui. C'est particulièrement vrai en français québécois. Puis je cherchais des ressources pour les aider, ces pauvres étudiants-là, à faire des liens entre le français qu'ils apprenaient dans la classe, dans les livres, puis ce qu'ils entendaient sur la rue. Je l'ai pas trouvé, cette ressource-là. Donc, quand la pandémie est arrivée, je me suis dit, bon, ben, avec le bagage que j'ai, je me sens outillée, moi, pour l'offrir cette
exact.
Ressource-là. Puis c'est comme ça que la chaîne est née.
Ouais. Je suis plus capable.
Est-ce qui est un peu décevant aussi, c'est que souvent, on va ridiculiser un peu les expressions québécoises sur les réseaux sociaux. C'est surtout, en fait, moi, ce que je trouve comme ressource, si quelqu'un veut apprendre des expressions québécoises, je trouve qu'on rit un peu de nos expressions québécoises plutôt que de les apprendre et de les faire comprendre aux gens.
Beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose que je trouvais dommage.
Ouais.
C'était souvent soit très anecdotique, des gens qui n'ont pas étudié là-dedans, qui ne connaissent pas ça, puis qui expliquent tant bien que mal.
Exactement.
Ah oui, tu veux-tu, hein? On double le tu. Mais non, c'est pas le même tu, c'est pas un pronom, c'est une particule interrogative, ça a une autre origine. Mais quelqu'un qui ne le sait pas, il ne peut pas l'expliquer. Ou des fois, c'était carrément un Français de France qui trouve ça donc drôle, notre façon de parler, puis qui s'en moque un peu. Là.
Exactement.
Non, effectivement, moi, c'est...
On en trouve beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Et quand je suis allée sur votre site, Geneviève, j'étais vraiment impressionnée par la qualité et le sérieux de tout ça.
Oui, tout
par
à fait.
Par rapport à ce qu'on voit généralement, j'étais bien contente de vous entendre.
Oui, parce que c'est... évidemment, puis vous parlez, ben, je vous ai entendu parler avec Boucard Diouf, entre autres. Et puis, ben, c'est sûr que c'est intéressant parce que lui, il les a toutes... comment on va dire ça, là, pogné les expressions, hein? Il les a pogné les expressions, lui.
Et tout
puis,
à fait.
Et puis, vous dites, bien sûr, que quand t'es rendu à aller voir un show d'humour, puis de comprendre un show d'humour, là, c'est parce que t'es pas mal intégré.
Ben oui, à mon sens, l'humour, c'est ça, c'est la dernière frontière, c'est un peu ce que j'expliquais à Boucard, parce que c'est une langue très informelle, il y a beaucoup d'expressions, les humoristes souvent parlent vite, font des contractions. Mais en plus de tout ça, on a une couche de référence culturelle. S'il fait une blague sur Ricardo, puis la personne ne sait pas que Ricardo, c'est un grand chef cuisinier, ben elle pourra pas la trouver drôle, la blague. Fait qu'effectivement, quand on est rendu qu'on rit en même temps que tout le monde, c'est parce qu'on est très bien intégré. Puis ça, c'est un commentaire que j'ai eu d'une de mes étudiantes. J'ai un site sur Patreon, c'est une plateforme de mécénat, donc les gens peuvent souscrire un abonnement mensuel pour soutenir un créateur de contenu, parce qu'on s'entend que faire des vidéos sur le français québécois informel sur YouTube, c'est pas ce qu'il y a de plus payant au monde, là. C'est pas des vidéos de chat viral. Donc, les gens me soutiennent pour que je puisse continuer à créer mon contenu. Bref, une des étudiantes sur cette plateforme-là qui m'a dit, j'ai suivi ta formation, je suis allée voir le spectacle d'un humoriste, puis je riais en même temps que tout le monde, puis pour la première fois, je sentais que je faisais partie de la gang.
Wow.
Puis ça, c'est tellement le plus beau témoignage que je peux recevoir, tu sais. C'est fou. Hein?
Alors, ben, votre chaîne qui compte quand même quelques 70 000 abonnés, je pense. En tout cas, est-ce qu'on est à jour dans nos données?
Oui, on approche même le 72 000.
Hé là là! Alors, puis évidemment, toutes vos capsules, ça, c'est gratuit. On peut aller voir vos capsules, ça nous donne une très, très bonne idée. Mais pour aller plus loin, alors, on doit s'abonner. Mais c'est ça, notre langue, elle est vivante, ça évolue et puis elle est pleine de toutes sortes de belles références. Alors, au lieu de dénigrer, au contraire, je pense que vous amenez toute une dimension intéressante et culturelle à tout ça. C'est vraiment très intéressant.
Ben merci beaucoup. Ça, c'est une des choses. Je reçois beaucoup de commentaires de Québécois, de Français aussi, mais de Québécois qui disent ça n'a pas d'allure enseigner des choses comme ça. Par exemple, je faisais une petite vidéo qui expliquait que 5$, on dit souvent 5 piastres, puis c'est piastre et c'est pas pièce, comme les Français qui arrivent ici puis qui disent ah, 5 pièces. Non, c'est pas pièce, c'est piastre, c'est un autre mot. Mais il y a quelqu'un dans les commentaires qui me disait que ça avait pas d'allure, puis que je pouvais pas m'auto-proclamer une prof de français, puis que c'était une mauvaise façon de parler, puis qu'il fallait pas enseigner ça. Puis j'ai expliqué, j'ai dit, monsieur, écoutez, moi, mon but, c'est d'aider les gens à mieux s'intégrer à notre société. Mon barème, c'est, est-ce que les gens risquent d'entendre ça, le mot piastre? Oui. Donc, c'est valable, je l'enseigne. C'est tout simplement, c'est simplement ça,
Mais en même temps, pour les gens qui font de, ben, qui veulent apprendre le français, les gens qui viennent d'ailleurs, ben, c'est parce que c'est on l'apprend dans la rue aussi, le français. Donc, si on apprend de façon trop, dans un français très rigoureux, ben, on arrive dans la rue, comme vous le disiez tantôt, on comprend plus rien. Comme, par exemple, les distinctions entre parler et dire, tout ça aussi, ou meilleur et mieux, pour des gens qui sont des nouveaux arrivants, c'est pas évident de comprendre toutes les nuances.
Tout à fait. Puis je dis pas qu'il faut pas faire ça. Là, c'est l'apprentissage formel, les classes de francisation, c'est absolument nécessaire.
Ben puis vous en faites de toute façon. C'est-à-dire à travers ça, c'est très sérieux. Là, c'est pas juste nos expressions québécoises, mais il y a des choses quand même qui font que c'est ça que vous. C'est parce qu'eux autres, ils parlent de leur. Tu sais, souvent on traduit, hein, comme vous êtes habitués, vous êtes traductrice, on traduit de l'anglais au français, donc ça nous amène à pas comprendre tout à fait pourquoi on dit parler dans telle circonstance et dire dans une autre circonstance.
Oui, mais ça, je pense pas que ça a rapport avec la traduction. C'est vraiment comme l'emploi de verbes dans chacun
mais
de
dans
ses contextes.
Vous connaissez bien, vous connaissez les langues espagnoles, toutes les langues latines. Vous êtes très familière avec tout ça. Donc, ça vous donne, bien sûr, que vous êtes en mesure de connaître comment on dit ça en espagnol ou comment on dit ça en portugais. Alors, ça vous donne une conscience plus aiguë encore, oui.
Oui, tout à fait. Ça m'a beaucoup aidé. Surtout dans le cours de prononciation, j'ai fait un parcours spécifique pour les hispanophones, pour les locuteurs du portugais et les anglophones aussi, parce que je connais bien les difficultés qui viennent de ces langues maternelles-là. Fait que pour les avoir connues, ces clientèles-là, j'ai été capable de mieux diriger un peu dans le cours de prononciation.
Alors, c'est ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc, ma prof de français, donc, on rappelle votre... En fait, c'est maprofdefrançais.com, c'est bien ça? .ca, je m'excuse. Oui.
Pas de problème.
Alors, on va avoir tous les détails et puis vraiment, il faut vous suivre. C'est vraiment passionnant.
Bien, merci beaucoup.
Merci Geneviève
beaucoup,
Breton.
Geneviève.
Grand plaisir.
Au revoir. Au revoir. Alors, notre deuxième invité aujourd'hui, Mathias Olivier du Festival Orientalis. Bonjour.
Bonjour.
Ah ben justement, hors d'onde, on parlait des odeurs. On disait que, il y avait une odeur dans le studio de nourriture. Et puis,
on trouve ça bien agréable.
Oui, on va trouver ça. Oui, parce que là, on va parler d'odeurs, justement, de nourriture dans ce Festival Orientalis qui commence le 8. Hein.
Oui.
C'est en fin de semaine. Enfin, ça commence le 8, donc c'est jeudi.
Du 8 au 11.
C'est le 8, c'est le... C'est jeudi, vendredi, je ne sais plus.
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
Voilà.
Donc, 4 jours et 4 nuits où on aura l'occasion de goûter aux mets délicieux d'un Orient condensé, mais aussi de découvrir une multitude de spectacles, d'artistes, d'ateliers et de se plonger dans une sorte d'Orient condensé. On aura l'occasion d'en parler.
Oui. Mais je fais une petite parenthèse, vous avez dit jour et nuit.
Oui, alors, nuit, disons, nuit? C'est pour la beauté du mot, mais disons 4 soirées.
Okay.
J'aimerais beaucoup, mais pour l'instant, la ville ne nous autorise pas.
Ça aurait été chouette.
C'est à cause des mille et une nuits.
C'est ça. Mais petit à petit, peut-être, ils accepteront.
Oui, c'est ça, on les prépare tranquillement. Là.
Absolument.
Oui, alors, de toute façon, vous êtes dans le Vieux-Port, alors c'est un bel endroit pour festoyer toute la nuit. Demain, peut-être moins pour les résidents, mais enfin, auprès du Quai de l'Horloge, voilà. Et puis, c'est ça, donc, en fin de semaine... En fait, c'est le même groupe qui... on parle du Festival du monde arabe qui a lieu au mois de novembre,
oui.
Mais finalement, c'est les mêmes organisateurs qui travaillent sur Orientalis.
Oui, c'est l'équipe, en fait, d'Alchimie Création et Culture, qui est un organisme à but non lucratif, vraiment axé sur les cultures du monde arabe et de l'Orient au sens large avec Orientalis, et qui tente de les faire vivre, rayonner à travers la ville de Montréal, tout en optant pour un dialogue avec les cultures occidentales également.
Ben c'est ça, donc la différence, est-ce qu'il y en a une? Ben, vous dites, c'est, bon, le Festival du monde arabe concerne plus bon, les pays arabes,
oui.
Mais dans le cas d'Orientalis, c'est un peu plus ouvert, c'est ce que je comprends.
C'est plus large, c'est un plus grand bagage, on va dire. C'est vraiment un Orient au sens large, disons,
ça peut
du
toucher
Maroc
la Chine.
Jusqu'à la Chine,
voilà.
Parfois jusqu'au Japon. Cette année, on s'arrête à la Chine et on a une multitude de pays représentés comme tous ceux du Maghreb, mais également le Moyen-Orient et aussi les pays d'Asie comme l'Inde, la Thaïlande. Cette année, on souhaite la bienvenue au Kyrgyzstan et la Mongolie également. Et en fait, on n'a pas moins de 17 pays qui seront représentés dans la section qu'on appelle les pays d'Orient, qui est vraiment un peu le cœur du festival. C'est un endroit où chaque tente représente son pays, sa culture. Ils exposent leur musique, la culture comme les costumes, la calligraphie, de l'artisanat, il y a aussi de la danse. Et en fait, l'intérêt des pays d'Orient, c'est que tout cela se mélange également avec les autres pays. Il y a vraiment une interaction et une spontanéité qui est vraiment... c'est la scène en continu. On a les scènes avec des spectacles, puis il y a vraiment la magie de l'instantané entre ces pays où il y a une effervescence là qui peut surgir à tout moment. Et ce que le public aime beaucoup également, c'est qu'il peut participer à ces moments de joie et d'expérience, disons, culturelle. Donc, par exemple, vous pouvez avoir l'occasion de voir les Thaïlandais s'essayer à la danse persane. Ou,
il y a un mélange, là.
Oui, oui, vraiment. Et c'est une manière de se tisser une relation à l'autre et de se découvrir également dans l'autre, parce que justement ces différents peuples, ces différentes cultures retrouvent quelque chose parfois qui fait écho à leur propre culture, comme on a déjà vu aussi par exemple je ne sais pas, des Vietnamiens danser avec les Libanais faire de la dabke, et tout ça est un peu insolite, dit comme ça, il faut le voir pour le comprendre, le vivre, et c'est vraiment quelque chose de très beau à expérimenter en réalité.
C'est ça, donc effectivement on avait raison de parler d'odeur puis de goût, de saveur, parce que là on va pouvoir vous pouvez partager aussi les plats, les spécialités,
oui.
Un peu avec les
Québécois. Oui, 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 absolument. On a une zone également de on parlait du français tantôt, là, de food truck, de, je ne sais pas comment on le dit en français, là, de camion alimentaire.
Oui, c'est-à-dire de cuisine de rue.
Et de cuisine de rue, voilà, c'est beaucoup plus
si on veut
élégant.
En bon français.
Exactement. Donc, on a une panoplie de cuisine de rue avec des mets venus de tout l'Orient. Et les festivaliers sont toujours très contents, en fait, de découvrir aussi, de voyager à travers l'art culinaire. Et en somme, en fait, aller à Orientalis au Quai de l'Horloge, c'est vraiment voyager sans quitter l'île pendant 4 jours et 4 nuits qui sont des soirs.
Oui, c'est ça. Mais en fait, on pense, bien sûr, on accueille beaucoup de touristes, nous, ici à Montréal, durant l'été, forcément. Mais bien sûr, il y a les Québécois qui aussi viennent se promener dans le Vieux-Port, mais les Montréalais et tout. Mais est-ce que, finalement, ça attire aussi des gens de différentes communautés, finalement, qui viennent aussi faire une espèce d'immersion, je ne sais pas, moi, ça peut être bien de se retrouver dans une sorte de souk.
Oui, absolument. Et vous avez employé le mot souk, et c'est un peu ça également. C'est vraiment, on s'est inspiré à la base des souks de Damas, de Bangkok ou de plusieurs villes en réalité. C'est ce qu'on a essayé de retranscrire à travers ces pays d'Orient. Après, je vous parlerai des scènes et des ateliers, mais on a beaucoup, beaucoup de touristes. On a énormément de Québécois. On a également des touristes venus du tout Canada, parfois d'Amérique du Nord, des États-Unis. Et on a également, évidemment, des personnes issues des communautés qui viennent découvrir, soit reconnecter avec leur propre culture, et par la même occasion, ils découvrent d'autres cultures. Et tout ça se mélange d'une certaine manière. À chaque fois, on peut voir, vraiment, ça a l'air un peu cliché de le dire, mais vraiment la joie qui resplendit au milieu de cette foule de tous horizons.
C'est ça, c'est la découverte. Tu vois, on a parlé, évidemment, pour les plus vieux d'entre nous, enfin, nos auditeurs qui écoutent, évidemment, on se souvient à quel point l'Expo 67 a été important pour la découverte du monde. Mais avec ces festivals-là aussi, c'est, je suis sûre qu'on apprend plein de choses et puis que ça peut, même quand on amène en famille, là, quand on amène nos enfants, ça peut être une occasion pour les enfants de développer une curiosité naturelle et puis avoir le goût du voyage.
Oui, absolument. C'est vraiment l'occasion de faire l'expérience des cultures diverses sans passer à travers un discours politique ou de la pédagogie.
C'est ça.
Donc, c'est vraiment le vivre en tant que tel. Et je pense que ça n'a pas de prix.
Alors, vous avez de grands invités. Je pense que vous avez quand même, Zouhair Bahaoui qui sera là. C'est une vedette, une star?
Oui, ça c'est la grande nouveauté de cette année, c'est on accueille cette grande vedette au prestige international, vraiment ce sont des millions et des millions de d'abonnés sur les réseaux sociaux et il vient ce samedi dans le cadre d'un nouveau volet qu'on appelle Samedi en liesse. Alors c'est un volet payant, Orientalis c'est un festival gratuit, mais exceptionnellement pour ce volet-là, en fait, c'est un moyen de rendre accessible justement des vedettes internationales à un prix vraiment modique. Donc Zouhair Bahaoui, c'est une méga star, pour le dire avec un mot anglicisé, qui a percé de manière fulgurante et qui avoisine les 750 millions de vues.
Oh, alors, quand même, ce sera important. Alors, j'imagine qu'il va y avoir foule, là. Et pas juste des Montréalais de souche, hein. Ça va être, ça va être très
Je pense que ça
populaire.
Pourrait être assez transversal, en fait, parce que, on va pas se le cacher, c'est aussi de la pop music, de la musique populaire, qui utilise les codes, les rythmiques de la musique marocaine, mais en les imprégnant en fait de sonorités afrobeat et dancehall. Donc c'est vraiment quelque chose qui, je pense, peut être accessible pour beaucoup de personnes. Et on a hâte de vous y voir toutes et tous samedi soir à 21h.
Mais les billets sont disponibles en ligne.
D'accord. Vous pouvez retrouver le tout sur nos réseaux sociaux, donc Festival Orientalis, ou sur le www.festivalorientalis.com. Et Orientalis, c'est Orient comme l'Orient, Alis et le Lys comme le Québec.
Ah, c'est bien, ça fait le pont.
Ben, car on est toujours liés au Québec.
Oui, c'est ça, ça fait le pont. Ah ben, c'est merveilleux. Et puis avec des ateliers, évidemment, des dégustations, enfin, tout ce qu'on peut trouver dans ce genre de rencontres.
Vraiment, il y a une multitude d'ateliers, ça, on en est très fiers également. Et d'ailleurs, je le dis, avis aux danseurs, si vous voulez vous essayer à une multitude de danses, que ce soit le katak indien, que ce soit la danse orientale, que ce soit les danses mongoles, on a vraiment tout ce qu'il faut, que vous soyez débutant, confirmé, peu importe, toutes et tous, vous êtes invités, petits et grands, et vous avez l'occasion après de pratiquer pendant tout le festival, pendant les spectacles, au Pays d'Orient, etc., etc.
Merveilleux. Mathias, Olivier, ça a été un plaisir de vous accueillir. Le Festival Orientalis qui commence ce jeudi, tout au long de la fin de semaine, au Quai de l'Horloge, dans le Vieux-Port de Montréal.
Merci
beaucoup.
Merci pour l'invitation.
Vous écoutez Aime l'été.
Eh oui, Aime l'été, deuxième moitié d'heure, et cette fois-ci, notre sujet, ça va être quelque chose. Alors, on accueille Rosie Bertrand et André Bouffard qui vont nous parler du balado Apéro Sexo. Mm-hmm. Alors, on parle de sexualité avec vous. Alors, vraiment, ça fait du bien, Aime l'été. Alors, voilà, on s'envoie un peu en l'air.
Mais moi, je tiens à spécifier toutefois que vous êtes deux professionnels du milieu. Oui. Vous êtes deux sexologues.
En fait, on a fini notre bac en sexologie. Quand tu finis le bac, tu peux décider de faire partie de l'ordre. Ouais. Nous, on a décidé de ne pas faire partie de l'ordre pour pouvoir avoir la liberté de parler des sujets qu'on veut, de notre vie personnelle. Et avec le balado, c'est sûr que pour nous, c'était un peu plus compliqué si on voulait faire partie de l'ordre.
Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Là.
Oui. C'est pour ça qu'il y a autant de balados où ce n'est pas des spécialistes.
Ben,
parce que souvent, des comédiens, des animateurs qui animent des balados sur le sexe, mais j'étais vraiment surprise de voir deux filles comme vous, deux sexologues.
C'est ça. Fait que sexologue, c'est un titre protégé. Fait que nous, on dit professionnel en sexologie, qui n'est pas un titre protégé.
Exact. On trouvait qu'il y avait de la valeur à parler de nos expériences personnelles pour faire de l'éducation à la sexualité grand public.
Parce qu'en fait, si vous aviez le titre de sexologue, vous ne pourriez pas nécessairement partager vos propres expériences. C'est ce que je comprends.
Exactement.
Il y a quand même un code de déontologie et tout. Alors voilà, ça vient avec. Mm-hmm. D'accord. Alors, on a mis ça au clair maintenant. Qu'est-ce que vous apportez effectivement de différent? D'abord, vous êtes deux amis. Alors, vous vous êtes rencontrés à l'université et là, vous avez décidé comme ça de partager une passion commune, qui était la sexualité et puis de faire partager vos expériences. Vous aviez des idées, au fond. Vous aviez des idées là-dessus et peut-être avec vos amis, tous les gens qui vous entourent. Alors, vous avez eu l'idée de faire ces balados. Alors, qu'est-ce qui est la particularité même de ces balados?
La mission du balado, c'est d'apporter les bonnes informations, mais tout en restant divertissante. Mm-hmm. Fait qu'on a décidé d'un peu lier le côté universitaire et personnel. Donc, on a décidé de se mettre de l'avant, de parler de nos expériences, de nos anecdotes, tout en donnant la bonne information. Donc, le balado reste un balado de divertissement. Si on parle de relations amoureuses, de relations intimes, on va se baser sur nos expériences en donnant les bonnes informations. Mm-hmm.
Puis je pense que ça se trouve aussi dans la chimie de Rosie et moi. On s'est rencontrés au bac en sexologie, puis notre amitié est née de notre amour de la sexologie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés dans des séances d'études en Zoom pendant la COVID à l'université. Oui. Fait que je pense que ça donne la couleur au balado, puis les gens l'entendent quand ils écoutent le podcast aussi.
Je me posais la question. Donc, vous parlez de vos vies personnelles, de vos expériences personnelles?
Oui, absolument. Ouais. Les gens ont vraiment... en fait, ça explique pourquoi on ne fait pas partie de l'ordre non plus. Ouais. Si on savait toute la vie personnelle, sexuelle, intime de notre psychologue, ça ne ferait pas de sens. Donc, nous, c'est la même chose. Mm-hmm. On met de l'avant notre vie personnelle, donc on est conscient qu'on ne peut pas faire partie de l'ordre. Mm-hmm. Donc, il y a beaucoup d'informations sur nos vies personnelles, mais on a fait ce choix-là très conscient. Parce qu'on a réalisé que c'est de la façon dont on pouvait le mieux aider les gens. Quand les gens se sont identifiés à nous, les messages qu'on reçoit, c'est « je m'identifie dans l'histoire que tu as racontée à tel épisode ». Ça me fait du bien de voir que quelqu'un vit les mêmes difficultés que moi. Mm-hmm. Donc, pour ça, on a décidé de un peu faire le choix de mettre de l'avant autant d'informations intimes et personnelles parce qu'on se rend compte que ça aide les gens.
Oui, c'est aussi un outil de vulgarisation scientifique de parler de nos expériences. C'est comme un médium plus rapide pour aller casser les tabous. Quand on
aussi,
parle de sexe.
Aussi, oui, c'est vrai. Parce que vous abordez toutes sortes de sujets. Mm-hmm. Et puis, effectivement, d'abord, mettons ça au clair. Est-ce que quand on s'en va étudier en sexologie, c'est que forcément, on a une passion infinie pour la sexualité?
On a une passion infinie pour, je dirais, la sexualité, mais aussi les relations intimes, les relations interpersonnelles.
C'est aussi ça, c'est ce que je voulais vous
c'est
entendre
ça.
Dire. Ouais.
C'est beaucoup, beaucoup plus large qu'on pourrait le penser. On a des cours de sociaux, de psycho, autant qu'on a des cours d'anatomie, de neuro, c'est super large comme bac. André puis moi, je pense que le but, ça a été de réaliser à quel point ces informations-là ne sont pas accessibles. Oui. Donc, le but du balado, mais c'est un bac très, très multidisciplinaire.
Et ça touche quel public, là? En fait, vous visez quel public? Quelle catégorie d'âge? Est-ce que c'est assez large aussi?
C'est quand même large.
Oui, notre auditoire se trouve pas mal en 18-35 ans, mais on essaie d'aller chercher des sujets puis des invités aussi qui vont dans d'autres tranches d'âge pour rendre justement cette information-là le plus accessible possible au plus de monde possible.
Ouais. Parce qu'on aborde autant, par exemple, le célibat. Ouais. Ça peut être des sujets qui peuvent toucher des gens un peu plus âgés aussi. Mm-hmm. Alors ça, y a plein de choses. Plein de sujets, je trouve, très, très intéressants et des sujets parfois intimes, dont on n'ose pas parler, même des fois avec nos amis. Finalement, ça peut être des choses... qu'est-ce qui nous dérange dans la sexualité? Ça peut être des choses,
Par exemple, la perte de désir qui est super tabou dans les relations, dans les couples, ça, on va venir l'aborder, puis ça peut toucher n'importe quelle tranche d'âge, n'importe quelle configuration relationnelle.
Ouais.
C'est super tabou, mais c'est un de nos épisodes de Chouchou, par exemple.
Quelqu'un qui a parlé de son pH vaginal, qui entraînait des problèmes, vraisemblablement aussi.
Mais d'ailleurs, récemment, on a eu cette conversation-là, toi et moi, nous sommes dans la cinquantaine.
Oui.
Et on se disait, on se sent obligé à avoir des relations sexuelles parce qu'on n'a plus d'hommes dans nos vies. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a une pression de dire, on est en couple, il faut faire l'amour. Alors que c'est plus nécessairement ça, le couple aujourd'hui. Mm-hmm. Il y a des gens qui ne font plus l'amour depuis des années. Ouais. Ils sont très heureux ensemble.
Absolument, absolument.
Mais il y a une pression sociale, je trouve.
Oui, il y a encore un petit fond de devoir conjugal. Là, ce fameux,
exactement, le fameux devoir conjugal.
Ça reste encore dans les mœurs, là, oui.
Oui, c'est ça. Remarquez-vous que finalement, les préoccupations n'ont pas tellement changé, ben, mis à part que, évidemment, les orientations sexuelles sont c'est plus ouvert, mm-hmm. là, évidemment, on le sait. L'inclusion et tout, alors ça, il faut en tenir compte. Il y a plein de choses qui touchent aussi la clientèle LGBTQ+, mm-hmm. alors bien sûr, mais aussi des sujets, des fois, qui nous... que moi, je pouvais entendre dans ma jeunesse, là, puis finalement, tu dis, mais coudonc, c'est pas encore réglé. C'est-à-dire, on parle encore des mêmes affaires, des fois, c'est fou.
Bien, absolument. On se rend compte aussi, en recevant des gens de différentes générations, qu'on a tous un peu les mêmes problèmes, les mêmes difficultés, mais exprimés différemment aussi. Il y a beaucoup d'avancements, là, on ne va pas se le cacher non plus. Ouais. Mais pour nous aussi, c'est important de rentrer en contact avec différentes générations pour offrir au public quelque chose qui peut s'identifier et pas seulement recevoir des gens de notre âge. Puis, on réalise aussi à quel point... on a tous vécu les mêmes difficultés au final.
Oui, il y a des questions qui vont revenir dans le développement psychosexuel de tout le monde ou presque, mais on voit quand même que les gens sont plus flexibles dans la manière dont ils vivent leur sexualité, dans les scripts, dans la manière dont ils vont appliquer le consentement dans leur relation. Fait qu'il y a quand même une lueur d'espoir dans une sexualité positive, mais il y a certainement des questions qui reviennent. Puis j'écoute des ados parler, puis je me dis, ah, oh, je me posais les mêmes questions il y a 10 ans.
Mais justement, par rapport aux adolescents, c'est une question peut-être un peu crue, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que vous trouvez que les jeunes, aujourd'hui, leur sexualité est plus débridée qu'elle l'était? Parce qu'aujourd'hui, l'accès à la pornographie... j'ai lu, mon Dieu, les compagnies comme Viagra faisaient des pilules pour les plus jeunes. Ils regardent tellement de pornographie que maintenant, ils ont de la difficulté à avoir des érections. Est-ce que la sexualité des jeunes est débridée aujourd'hui?
C'est drôle parce qu'on dirait dans les médias que c'est ça, puis qu'il y a une hyper-sexualité. Puis nous, au bac, on a beaucoup étudié ce phénomène-là. Mm-hmm. Et quand tu pousses un peu plus loin, tu te rends compte que si on parle juste de l'âge de la première relation sexuelle, ça fait des dizaines d'années que ça l'a pas changé. Au contraire, ça l'a même augmenté. Parce que l'information est aussi plus accessible maintenant. Et les gens, oui, ont peut-être accès à de la pornographie, mais il y a aussi plus d'éducation à l'école. Je veux dire, il y a quelques années, le gouvernement aussi a mis en place l'obligation d'avoir des cours d'éducation à la sexualité. Donc, on peut penser ça, mais quand on regarde les statistiques, on voit que juste pour le nombre de partenaires, l'âge de la première relation sexuelle, ça n'a pas changé.
C'est même vieilli. Puis, tu sais, ça fait de la logique quand on pense à plus on a de l'information sur la sexualité, qui est une information fiable sur la sexualité, plus on va être à l'aise de dire non quand on n'a pas envie, plus on va être à l'aise de dire oui de nos envies plus spécifiques. Fait que les contextes dans lesquels les relations sexuelles sont faites pour les plus jeunes vont être plus dans une optique de sexualité positive qu'il l'était avant.
C'est ça. Le développement, au fond, de l'être humain demeure le même. Là, finalement, c'est la même chose. Ça n'a pas changé. Alors, effectivement, qu'on ait des relations sexuelles à peu près à la même période de notre vie, on met toujours l'accent sur les exceptions ou enfin, évidemment, ce qui est plus sensationnel là, comme info, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui vous a... c'est-à-dire que, là, vous en avez fait combien à peu près de capsules
56.
On s'est 30 épisodes par saison, puis la deuxième saison est en train de terminer. Là, il reste 2-3 épisodes.
Recevez-vous des personnalités connues?
En fait, c'est ça, on a un épisode chaque lundi. C'est un peu séparé en trois. On a les épisodes nous deux. On a des épisodes avec des gens qu'on invite beaucoup pour leur vécu expérientiel. Donc, par exemple, une personne trans, on va l'inviter pas nécessairement parce que c'est une personne connue pour nous parler de son expérience. Et ensuite, on reçoit des personnalités publiques aussi. Fait que c'est les trois sphères d'invités qu'on reçoit ou de seulement nous deux. Et on se rend compte que de cette façon-là, on donne un peu la parole à tout le monde. Aussi, il y a des gens, des fois, qui nous envoient un message. « Ah, tu sais, je pense que j'aurais quelque chose à vous raconter qui pourrait toucher les gens. » Fait qu'on reçoit autant des spécialistes parce qu'on se considère... Tu sais, au bac, on voit tellement de choses, mais on ne peut pas être spécialiste de tous les sujets. Donc, nous, on trouve ça important d'avoir des spécialistes quand on parle d'un sujet en particulier, que ce soit les ITSS, que ce soit le cycle menstruel, on reçoit des professionnels du milieu.
Puis même chose pour notre expérience, on n'a pas d'expérience en tout dans notre sexualité, fait que d'où l'importance d'avoir des gens qui ont de l'expérience sans nécessairement avoir l'expertise de leur expérience.
Oui, non, c'est ça. Alors, finalement, c'est très, très, très varié. Et puis, bon, je pense... en fait, je vous avais reçu quelqu'un aussi, comment elle s'appelle, la comédienne, Mélissa...
Oui,
Les Ormeaux-Poulin. Elle parlait plutôt aussi comme parent, en tant que parent aussi, par rapport à l'éducation sexuelle des enfants. Je pense que vous avez pu jaser beaucoup avec elle. Est-ce que vous avez un temps minimum? Ça dure combien de temps, ces discussions-là?
C'est souvent une heure, mais avec Mélissa, ça n'arrêtait plus. On avait tellement de choses à dire.
C'est ça, hein? Vous aviez beaucoup de choses à dire.
Absolument. Fait que ça dépend. Entre une heure et demie, autant qu'il y a des épisodes qui ont duré deux heures. Ouais. Honnêtement, on se laisse aller. On laisse la discussion se porter comme elle va. Puis ensuite, on voit si... On coupe pas grand-chose des podcasts, fait que souvent on garde quand même tout, même si la discussion est plus longue.
C'est propice au développement puis au partage d'expérience. Tu sais, c'est un peu le média du balado d'être dans un espace, de créer un cocon, de créer des discussions qui sont sécuritaires pour les gens qui sont présents. Fait
que vous partagiez comme ça vos expériences, vos conjoints, conjoints, ex-conjointes, conjointes, peu importe, là, ils en disent quoi?
au début, on se rendait peut-être pas compte que des gens nous écoutaient. Quand on s'est rendu compte que des gens nous écoutaient puis pouvaient peut-être faire des liens aussi.
C'est ça.
Y a une discussion qui a été ouverte. Pour l'instant, on est célibataire, donc ça va. On s'assure de rendre anonyme à chaque fois qu'on parle de quelqu'un maintenant. On a des surnoms et tout. Ces personnes-là n'ont pas demandé d'avoir leur vie exposée sur Internet. Non. Donc, on s'assure de ne plus le faire. Des fois, il y a eu comme justement des chicanes avec ex-partenaires, etc. Donc, maintenant, on fait très, très attention parce que, comme on dit, nous, on a fait ce choix-là conscient d'exposer notre vie. Pas eux.
Même si c'est anonymisé, on va aller valider avec nos partenaires s'ils sont à l'aise qu'on partage cette expérience-là parce que ça reste très intime, très vulnérabilisant, souvent la plupart des anecdotes.
Il y a des sujets très variés. Ça peut être même par rapport au dating, là, c'est-à-dire combien ça peut coûter finalement d'aller s'asseoir avec quelqu'un comme ça pour faire une rencontre. Alors, il y a toutes sortes d'aspects intéressants. Vous allez aussi, je pense, est-ce que c'est cet automne que vous allez sortir un jeu de cartes ou vous l'avez déjà?
Cet automne.
Qu'est-ce que c'est?
Donc, en fait, André puis moi, on a joué souvent à des jeux de questions. Donc, c'est vraiment comme un jeu de cartes traditionnel avec des questions reliées à l'intimité, la sexualité. Et tous les jeux de cartes sont incroyables et on a décidé d'en faire nous-mêmes la version apéro-sexo. Donc, c'est des jeux que les gens vont pouvoir jouer. Les premières éditions, c'est jouer soit avec ses amis, jouer en date ou jouer plus avec des partenaires avec qui on a une vie sexuelle, une vie intime. Ça pourrait être, par exemple, une question qui demande « C'est quoi la plus grosse blessure que tu as vécue relationnellement? » C'est quoi la rupture qui te fait le plus mal? Comment tu gères ta colère dans les relations? Fait qu'on essaie de toucher le plus de sphères possible. Donc, on est séparés pour l'instant en trois éditions et les autres s'en viennent. Ça, c'est le gros projet à l'automne qui s'en vient pour Apéro.
Très amusant. Alors, c'est ça. Donc, ça peut être une façon de connaître quelqu'un davantage, justement, lors d'une soirée, d'une date qu'on a. Ben, c'est ça. On peut jouer à ce jeu et puis, bon, découvrir plein de choses. Alors, donc, cet Apéro sexo qui est disponible, bon, est-ce qu'il faut s'abonner?
Il y a le balado. Donc, le balado est disponible sur toutes les plateformes et YouTube. Il y a un visuel, mais on a surtout une page Instagram, c'est apéro.sexo, qu'on fait du contenu éducatif chaque jour. Donc, on fait des capsules par rapport au désir. C'est vraiment très varié, autant humoristique qu'éducative. Et c'est vraiment sur cette plateforme qu'on a la plus grosse communauté. Fait que ça, c'est du contenu tous les jours.
Et toujours pour les 18-35 approximativement.
On veut que ce soit pour tous, mais c'est vrai que la plupart de nos auditeurs sont 18-35.
Si un enfant de 15 ans, je lui dis pas...
Bien, en même temps, l'enfant de 15 ans, il va s'éduquer ailleurs.
Ben, c'est ça.
Tant qu'à ça, c'est un peu notre vision. Les gens vont trouver, l'information ailleurs.
Ben, exactement.
S'ils le trouvent dans la porno, tant qu'à ça, on va les rediriger vers des plateformes qui sont plus saines avec la bonne information. Apéro sexo, c'en est une. Fait que pour nous, on est à l'aise et on est conscient que des ados nous écoutent. T'sais, ils vont vraiment sentir une... T'sais, on répond aussi à nos messages, on essaie d'aider le plus de gens qu'on peut. Puis on préfère créer cette plateforme-là qu'il y aille ailleurs.
Exactement.
Eh bien, ça a été fort intéressant. Rosie Bertrand et André Bouffard de Apéro Sexo. Alors, évidemment, on va voir qu'est-ce que vous faites absolument dans les balados. Là, c'est très intéressant et sur toutes sortes de sujets.
Merci
beaucoup. Merci à vous.
Au revoir.
Merci. Au revoir.
Avec beaucoup plus d'entrain. Et bien,
Et là, c'est le temps de parler de vélo après, ah, après avoir
la nourriture, parlé de sexualité.
De nourriture, de sexualité. Là, on parle française. De vélo. Vélo caravane avec Papa Amadou Touré. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vraiment, j'avais bien hâte de vous parler. Je trouve votre projet formidable. Un projet qui a commencé quand même autour de 2013. Vous êtes arrivé du Sénégal en 2009, je pense.
Et... juste une correction. Oui. En fait, ça a commencé en 2009 au lieu de 2013.
Ah, c'est-à-dire votre projet a commencé autour de 2009, c'est ça?
En 2009.
Ah, d'accord. Parce que vous êtes arrivé auparavant ici au Québec et vous aviez de grands projets, bon entre autres de devenir médecin. Vous aviez fait des études là-bas au Sénégal et puis, bon, finalement, évidemment, pas facile de faire reconnaître ses études ici et puis tout. Alors, évidemment, de fil en aiguille, vous avez fait mille et un petits boulots qui vous a amené à devenir coursier à vélo. Et puis là, je résume toute votre histoire parce que vous avez beaucoup à dire. Puis là, je me dis, là, on commence avec même pas une idée folle, parce que quand vous étiez coursier à vélo, vous avez réalisé que vous étiez comme le seul membre de communauté visible, finalement, qui finalement était à vélo.
Oui, ben en fait, le seul, c'est peut-être exagéré.
Je fais exprès.
Oui. Oui, mais on va juste essayer d'être plus précis. C'est-à-dire, mon sentiment sur les pistes cyclables à Montréal, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de gens comme moi. Moi, je suis noir, je viens d'Afrique, du Sénégal, dans des quartiers où il y a beaucoup de gens qui viennent de ces pays-là, Afrique, Maghreb, dans Parc Extension, c'est Inde, Pakistan. Il n'y a personne qui est à vélo. Quand on est sur le plateau Mont-Royal, la même journée, à 6 août à Montréal, il y a des vélos partout. Donc, en fait, à l'évidence, il y avait un lien entre qui fait du vélo et son origine ethnique. On est à Montréal, donc c'est multi-ethnique. C'était le tableau était assez visible. Mais pour ça, il ne fallait pas forcément faire une étude. Ce n'était pas un sujet de doctorat. Il suffisait de d'ouvrir les yeux et de regarder. Mais pour ça, il fallait avoir un intérêt pour le vélo. Donc moi, en étant cycliste, étant tout le temps sur les pistes cyclables à Montréal, dans la même journée, je traversais un coin de Montréal où il y avait des vélos partout, et un autre coin de Montréal où il n'y avait aucun vélo. Donc le constat était évident. Il sautait aux yeux, pour le dire simplement. Voilà.
Alors donc, de là, l'idée de dire, qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait faire un... En fait, vous avez fait un sondage. Vous avez demandé aux gens pourquoi ils ne faisaient pas de vélo. Et vous vous êtes aperçu que bien des gens ne savaient pas faire du vélo. Les adultes?
Oui, absolument. C'est-à-dire que là, je donne un exemple. Je suis dans Parc Extension, dans Saint-Michel, et je vois qu'à l'arrêt d'autobus, tout le monde attend l'autobus. Il n'y a pas de vélo. Et je dis, mais évidemment, une question naît. Donc, le constat et après, la raison. Pourquoi c'est comme ça? Et donc, à l'époque, moi, je faisais de petits questionnaires que je distribuais dans des centres de communautés d'accueil des immigrants, qui viennent pour apprendre à parler français, pour apprendre à écrire un CV conforme aux normes québécoises. Enfin, toutes ces choses-là, parfois à la banque alimentaire. Et mes questionnaires, c'était, mais pourquoi tu fais pas de vélo? Et la réponse, donc j'avais un choix. Est-ce que le vélo est cher? Est-ce que je sais faire du vélo? Mais c'était des questions. J'avais une idée, mais je préférais avoir des avis qui ne venaient pas que de mes impressions. Et donc, définitivement, l'espace d'une année, je récupère tout ça et je vois que ça ressort à 85%. Les gens, ils disaient, je ne sais pas faire de vélo. Et donc, j'ai dit, mais OK, donc, si on veut régler ce problème, il faut commencer par la première chose, c'est qu'il faut apprendre à faire du vélo. Et donc, on est en 2009, je crée Vélo Caravane, et la première activité que je monte, c'est le vélo école, donc un cours de vélo destiné à des adultes qui ne savent pas faire de vélo.
Alors, c'est ça. En premier, vous aviez évidemment beaucoup de gens qui venaient d'ailleurs, parce que le vélo n'est pas nécessairement... on l'utilise quand même... ce sont souvent, dans certains pays, ce sont les moins nantis qui ont des vélos, qui se transportent
absolument.
En vélo, mais il y a encore la culture de l'auto. Quand vous partez de votre pays, les gens, quand vous arrivez ici puis que vous avez votre voiture, c'est un signe de réussite. Alors, c'est vrai que ce n'était pas nécessairement valorisé dans tous les pays, le fait de faire du vélo.
Absolument. Il faut rajouter à ça que les personnes qui viennent vivre ici au Canada, qu'ils soient réfugiés ou qu'ils soient immigrants, regroupement familial ou immigrants économiques, c'est qu'ils viennent à investir. Généralement, c'est des gens qui viennent soit de milieux, je dirais même de milieux favorisés dans ces pays-là. la personne qu'on imagine en Afrique dans une campagne avec sa bicyclette, c'est un paysan, c'est quelqu'un qui travaille au champ. Mais cette personne n'arrive jamais au Canada. Mm-hmm. Elle n'est pas du tout dans le son plan de vie, c'est pas d'aller au, peut-être en Europe. Parce que bon, mais le Canada, c'est loin, c'est souvent, et d'ailleurs les critères d'immigration sont assez élevés, donc les gens qui ont le toupet, je donne un exemple, moi je viens de Dakar, l'ambassade du Canada, il est dans un des quartiers les plus huppés de Dakar, même aller là est un peu intimidant. Alors, on imagine donc cette personne qui va à l'ambassade, qui a ses papiers, qui vient vivre ici, c'est déjà d'arriver au Canada est une sorte de réussite. Mais dans ce processus de réussite ou d'intégration sociale, ben, il y a avoir un emploi, il y a avoir une maison, avoir... Et à un moment, dans ce chaînon d'acquisition matérielle qui traduisent la réussite, ben, il y a avoir une voiture, c'est une grosse voiture.
C'est ça. Donc, gens n'ont donc pas vraiment favorisé le vélo, alors ne savent pas faire du vélo quand ils arrivent ici.
Absolument. En fait, le vélo n'est même pas... D'abord, il n'était pas dans le plan dans le pays d'origine et il n'est pas du tout dans le plan quand on arrive ici.
Non, alors, d'autant plus que ça coûte assez cher aussi. Acheter un vélo ici, ce n'est pas donné non plus.
Absolument. Mais le point, c'est qu'on est dans une société qui a un peu changé sa façon de penser parce qu'il y a des problématiques de santé publique, il y a des problématiques environnementales, il y a des problématiques de... La liste est tellement longue. Et là, on est en train de parler des avantages à faire du vélo. Ouais. La mobilité urbaine, par exemple, ben, on est dans un coin, il y a une densification de population. Si tout le monde a une voiture, ça ne fonctionne plus. Et donc, du coup, la prise de conscience de certaines personnes, souvent des avant-gardistes ou des pionniers dans ces sociétés, on va dire avancer, entre guillemets, ben, les gens qui ont compris les vraies problématiques, qui veulent faire changer la direction du bateau, ben, eux, ils ont abandonné la voiture.
Tout à fait.
Alors du coup, voilà, donc nous, on embarque dans, quand je dis nous, c'est les gens qui venons d'autres pays, on embarque dans une société avec le plan qui n'est plus le plan de cette société. Donc c'est il y a ça. Comme une sorte de rattrapage à faire. Mmh. Et le vélo dans sa façon de régler des réelles problématiques sociales, environnementales, je me répète, ouais. Santé publique.
Ah, bien sûr, c'est
le vélo enjeux. Permet d'aborder. Ce sont de vrais enjeux de société. Ouais. Mais le point, c'est que quand une personne arrive, donc immigrante, ces enjeux ne sont pas encore sa réalité. Alors elle arrive, elle trouve un jour, elle pogne une job, elle arrive au boulot et le chef de l'entreprise, lui, vient au travail à vélo.
Alors là,
je finis juste avec ce point. Et donc il y a comme une sorte de reset. Donc il faut changer sa façon de penser. Donc il y a un virage culturel, un virage mental qu'il faut faire et le vélo permet de faire ça.
Et c'est une façon aussi de s'émanciper dans son nouveau pays, c'est une façon, avant on parlait de francisation un peu plus tôt dans l'émission, mais avant même la langue, c'est vrai que le vélo peut être, c'est vraiment une forme de liberté de prendre, évidemment, de s'émanciper dans notre, comme je le disais, dans notre nouveau pays. Mais en fait, là, vous, ce que vous faites, c'est que vous donnez des cours à ces gens-là qui ne savent pas faire du vélo, ça peut être, c'est sûr, c'est des adultes, hein? Ils peuvent avoir 40, 50 ans, 60 ans. Et dans
même
un...
70 ans.
Eh oui, 70 imagine, ans. Je pense que votre doyenne avait autour de ça 75
ouais.
ans.
Ouais,
mais
ouais.
Ce qui est intéressant, c'est que dans un premier temps, vous avez offert les cours de vélo à cette clientèle-là, mais après ça, est venu aussi des gens, des Québécois, des gens qui n'ont pas su aussi, qui n'ont pas pu apprendre dans leur jeunesse pour toutes sortes de raisons. Alors, vous avez toutes sortes de gens maintenant. C'est vraiment très diversifié comme clientèle.
Absolument. Alors, je vous avoue que j'étais en même temps surpris de cette réalité que j'ai commencé à voir il y a 5-6 ans. C'est que de grands médias de la place ont donné une sorte de focus sur mon travail. Donc, tout le monde dans la population savait que le cours de vélo existait. Et donc, des gens qui étaient nés ici, qui étaient là depuis 4-5 générations, découvraient que ce service existait. Et donc, ça montrait aussi l'isolement de ces personnes dans leur société où on parlait de vélo partout, qui découvraient que Donc, je ne suis... Ce service existe. Quelqu'un a pensé à ça. Mais donc, eux vivaient un isolement parce qu'ils vivaient dans une société où dire, quand on est adulte, qu'on ne sait pas faire du vélo, c'est terrible.
Ah, en fait, c'est très gênant, c'est ça.
C'est très gênant.
Oui.
On a l'impression d'être un attardé mental.
Tout à fait.
Quand on est... Alors, pour l'information, j'ai même reçu, puis ça, c'est assez drôle, même des gens médecins, diplômés
ouais,
qui
ça.
Travaillent à l'hôpital et qui vivent avec cette réalité.
Ouais.
au travail, même au bloc opératoire, pendant qu'on opère, le chirurgien, il parle de sa ride à vélo qu'il a fait à Mont-Tremblant, et peut-être que l'anesthésiste en face de lui, il se dit, mais je ne peux pas dire que je ne sais pas en faire. Donc, il écoute, il sourit, il participe. Donc, c'est une première clientèle qui est apparue. Donc, qui est vraiment des gens qui sont ici depuis
longtemps.
Alors, on rajoute à ça.
On va devoir ramasser tout ça parce qu'on arrive à la fin de l'émission, de l'entrevue.
D'accord.
Mais en fait, c'est ça. Donc, ça peut être des gens, des enfants qui ont une déficience intellectuelle et physique. Il y a des belles histoires là-dessus, vraiment des histoires que vous avez changé la vie, transformé la vie de bien des gens. C'est ça qu'il faut dire.
En fait, c'est le vélo qui transforme la vie.
Oui. Oui, mais vous avez été le moteur. Et puis, d'être capable aussi de développer une technique d'enseignement. Puis, le lien de confiance que vous créez, c'est fantastique ce que vous faites, là, vraiment.
Merci.
Et puis, vraiment, c'est un service vous avez trouvé l'idée de génie parce que c'est tellement important de faire le lien. Puis, vous êtes presque un psy en même temps. C'est fantastique. Alors, Papa Amadou Touré, ça a été vraiment un plaisir. Et puis, je pense qu'on va sur Vélo Caravane, et puis on aura tous les détails pour demander votre aide.
Mais merci de m'avoir reçu à votre émission.
Ça a été un plaisir. Ah là là, que ce sont des gens inspirants.
Oui.
Mais c'est une belle histoire. Il y a plein d'articles sur ce monsieur. Alors, allez lire ça, que ce soit dans les journaux. Là, vous allez avoir plein d'articles. Merci, Nathalie.
Merci à toi. On se retrouve demain.
À la même heure.
À la même heure.
L'été, entre midi et 13 heures.
Au revoir.